Bonjour, bienvenue. Dans un contexte marqué par l'accélération du dérèglement climatique et la rareté des ressources naturelles, la sobriété est plus que jamais une priorité. La sobriété énergétique, bien sûr, mais aussi la sobriété en matière d'aménagement de territoire et de gestion des ressources comme l'eau. Je vous propose dans cet épisode, consacré à la sobriété, de découvrir plusieurs solutions concrètes.
Regard public, les solutions du groupe Caisse des dépôts.
La sobriété, nous le disions, concerne de nombreux domaines, notamment celui de l'aménagement des territoires. Violaine Paton, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice adjointe en charge du pôle aménagement à la direction des grands projets de CDC Habitat, filiale du groupe Caisse des dépôts, filiale immobilière à vocation d'intérêt général, avec plus de 531 000 logements. Première question, c'est quoi la sobriété foncière ?
La sobriété foncière, c'est éviter d'utiliser du foncier, notamment du foncier de terres agricoles ou naturelles, hein, pour développer les activités et l'urbanisme en lien avec les besoins de la société et des villes, hein, de s'étendre. Donc c'est en lien aussi avec l'objectif du zéro artificialisation nette, le ZAN, qui a pour objectif fixé à 2050 de réduire le rythme d'artificialisation et de consommation des terres agricoles, mais également de préserver la biodiversité, du coup, qui sont aussi tant de vecteurs pour se protéger vis-à-vis du changement climatique, puisque tout ce qui est biodiversité, nature et nature en ville permettent quand même de limiter les évolutions brutales du climat, et donc ça participe aux mesures contre la crise climatique.
Qu'est-ce qu'on peut prendre comme mesure quand on est une commune dans ces stratégies de sobriété foncière ?
Mais alors bien sûr, il y a le fait de ne pas forcément lotir de nouvelles terres agricoles ou naturelles, mais il y a surtout le fait de renouveler la ville sur la ville, c'est-à-dire de transformer, de redynamiser des secteurs déjà urbanisés, comme des zones de friches industrielles ou d'activités peu denses, afin de créer de nouveaux quartiers, de transformer ces territoires. Après, bien sûr, des mesures de démolition, dépollution, renaturation, et dans le cadre de projets d'aménagement d'ensemble, pour concevoir ces nouveaux quartiers, mais également leurs nouveaux équipements et tous les besoins pour répondre aux besoins des futurs habitants.
Vous travaillez sur de nombreux projets. Vous devez, j'imagine, pour cela, mettre en place des démarches partenariales avec les élus.
Oui, effectivement, CDC Habitat travaille toujours en partenariat avec les élus et toutes les collectivités territoriales, c'est pas seulement les communes, c'est également les établissements publics, les établissements publics fonciers, les collectivités type EPCI, mais c'est également des partenariats avec des promoteurs, avec des opérateurs immobiliers privés avec qui on développe les opérations. Et puis, c'est également des recherches de fonciers à faire muter au niveau de grands propriétaires fonciers, que ça peut être SNCF ou alors de grands acteurs industriels vers qui on se tourne pour faire muter leurs fonciers.
Une de vos opérations emblématiques, c'est celle de Parc en Seine sur les communes de Thiers et Orly, dans le Val-de-Marne, en banlieue parisienne. Une partie d'une zone logistique va devenir un lieu de vie ouvert, vert et accueillant, c'est ça ?
C'est tout à fait ça. Il s'agit d'un grand projet d'aménagement sur lequel on a été lauréat dans le cadre d'un groupement d'opérateurs avec Link City, Sogeprom, Bouygues Immobilier et CDC Habitat lors de la consultation « Inventons la métropole du Grand Paris » en 2017. Il s'agit du coup d'un projet d'aménagement sur lequel CDC Habitat et Link City est co-aménageur, co-promoteur, et demain CDC Habitat sera investisseur d'une partie des logements. On est sur la transformation d'une zone logistique de l'ordre de 14 hectares, sur lequel on va constituer un nouveau quartier de ville sur les communes d'Orly et de Thiers, en amenant à la fois des nouveaux logements. Il y aura près de 3000 logements, dont environ 1000 pour CDC Habitat, du logement social, du libre, des résidences gérées, de l'hôtellerie. Il y a également tous les services qui vont accompagner le cadre de vie de ces nouveaux habitants, un peu de tertiaire, un peu d'activité, et un grand équipement métropolitain qui s'appelle la Seine Digitale, qui sera une arène dédiée au e-sport et au cluster numérique. Le projet s'appelle Parc en Seine, parce qu'on vient surtout créer deux grands parcs qui vont renaturer et désimperméabiliser le secteur de 8 hectares, afin de ramener de la nature en ville, des îlots de fraîcheur et également de la biodiversité.
C'est une belle reconversion qui évidemment peut donner des idées.
Oui, c'est vrai que c'est très inspirant, ces grands projets. Ça permet de penser dès la conception à la fois la place des habitants, mais également la place de la nature en ville et de davantage l'intégrer en vue de préserver l'avenir et l'environnement.
Merci à vous.
De rien.
L'été 2022 a certainement marqué un tournant dans notre rapport à l'eau. Les événements climatiques extrêmes, comme les sécheresses que nous avons connues, ont montré très concrètement que l'eau n'était pas une ressource disponible en quantité limitée et facilement contrôlable. Évidemment, de nombreux territoires avaient déjà conscience depuis longtemps de cela, mais la prise de conscience de la société française a été brutale. Et vous allez voir que pour sécuriser cette ressource, être plus sobre, il existe des solutions. Pour en parler, j'accueille Yves Gour, président du syndicat mixte des eaux du Lévézou-Ségala. C'est près de Rodez, dans l'Aveyron. Bonjour.
Bonjour.
Également avec nous Jean-Marc Bou, directeur territorial à la Banque des Territoires Occitanie. Bonjour.
Bonjour.
Et puis Florence Tovenati, chargée de développement territorial à la Banque des Territoires Occitanie.
Bonjour Paul-Emmanuel.
Bonjour. Yves Regour, vous nous le confirmez, la gestion de la ressource en eau potable est une question cruciale en Aveyron.
Et effectivement, l'été 2022 a été un été particulier en termes de sécheresse qui a touché aussi le département de l'Aveyron. Donc la gestion de cette ressource qui est certes préservée et importante avec les retenues hydroélectriques d'EDF nous permet de stabiliser nos besoins, mais nous avons dû travailler en parfaite harmonie et en parfaite coordination avec l'ensemble des partenaires pour assurer ce que nous appelons nous le multi-usage de l'eau, à savoir le soutien d'étiage pour les cours d'eau déficitaires, mais aussi l'alimentation en eau potable, l'activité touristique sur ces lacs de notre territoire qui est importante sur la période. Donc tout cela a dû se faire de façon concertée et je dirais nous avons pu réussir à passer ce cap difficile de l'été 2022.
Parmi les stratégies que vous mettez en place évidemment pour préserver cette ressource, pour la sobriété et puis pour la qualité également de l'eau, il y a un chantier important, c'est l'amélioration de l'usine de production d'eau potable du moulin Galata.
Effectivement, notre syndicat a fait le choix il y a maintenant un an de travailler à l'amélioration et à la modernisation de son usine de production d'eau potable de façon à améliorer et augmenter sa capacité de traitement et à la porter à plus de 600 litres seconde, permettant une production maximale supérieure à 40 000 mètres cubes par jour pour faire face à la demande de plus en plus importante des administrés abonnés à notre syndicat, mais aussi de la quinzaine de collectivités qui nous sollicitent de façon à sécuriser leur alimentation d'eau potable. Nous avons lancé un vaste chantier de réhabilitation de cette usine construite pour la première partie en 1968.
C'est un coût important, ces travaux ?
Ces travaux s'élèvent à 5 millions d'euros. Effectivement, c'est un coût important, sachant que le syndicat, au-delà de son usine de production, travaille activement aussi à la qualité et à la performance de son réseau, ce qui donne des résultats somme toute satisfaisants et importants dans le contexte, de façon à ne pas gaspiller de l'eau inutilement en période de crise.
Alors si on revient sur ce projet de l'amélioration de l'usine de production d'eau potable du moulin de Galate, le financement a été assuré par la Banque des Territoires, Florence Tovenati.
Oui, tout à fait. La Caisse des dépôts Banque des Territoires est intervenue avec une offre proposée à la suite des assises de l'eau qui s'appelle l'Aquapré. C'est une offre spécifique de long terme puisqu'elle peut aller jusqu'à 60 ans et elle est adossée au taux du livret A et avec une marge de 0,60. Cette offre est destinée au financement des infrastructures d'eau potable, de l'assainissement et de la GEMAPI. C'est une maturité inédite et elle est possible au regard de la durée de vie et du coût de certaines infrastructures du secteur.
La préservation de la ressource en eau est une des priorités de la Banque des Territoires.
Oui, absolument. Elle fait partie des convictions 2030. Nous accompagnons les collectivités dans le financement de ces investissements très lourds. Le long terme permet aussi de maîtriser la facture pour les usagers. Cet été, 93 départements ont été concernés par les mesures de restriction d'eau. La ressource en eau, sa sécurisation et sa résilience doivent être anticipées. L'Aveyron n'y échappe pas. Et le syndicat Les Vesous Ségala est un acteur majeur sur le département de l'Aveyron en termes d'approvisionnement et de sécurisation en eau potable.
Jean-Marc Bou, c'est un vrai travail de partenariat tout cela ?
Tout à fait, Paul-Emmanuel. Ce type d'opération structurante qui implique le long terme suppose le partenariat, se projeter à long terme, suppose effectivement une vraie réflexion. Une vraie réflexion pour trouver la bonne solution technique qui permettra de passer plusieurs années et de se projeter sur plusieurs années, mais également de réfléchir sur le mode de financement le plus adapté pour permettre que cette opération soit acceptable au niveau du prix des usagers qu'il faut savoir modérer et moduler. C'est la relation de confiance établie depuis plusieurs années entre l'agence de l'eau, Adour-Garonne, mais également les élus du syndicat des eaux du Lévesous-Ségala et les collaborateurs de la Banque des Territoires qui ont permis la mise en place de ce financement sur longue durée. C'est un projet qui va permettre de répondre à la transition écologique et énergétique et également aux générations futures qui vont utiliser et bénéficier de ce type d'investissement.
Et je vous propose maintenant de nous intéresser à la sobriété énergétique avec nos deux invités, Philippe Bajou. Bonjour.
Bonjour Paul-Emmanuel.
Vous êtes secrétaire général du groupe La Poste, directeur général adjoint, et Adrienne Aurel-Pagès, directrice de l'engagement citoyen de la Banque Postale.
Bonjour Paul-Emmanuel.
L'objectif de réduire de 40% notre consommation d'énergie d'ici 2050 suppose de transformer en profondeur nos habitudes et comportements, notamment l'entreprise. Philippe Bajoux, La Poste, est engagé depuis de nombreuses années dans l'efficacité énergétique et la décarbonation. Comment s'inscrit-elle dans le plan de sobriété lancé par le gouvernement ?
Oui, tout à fait. La Poste est pionnière dans le domaine de la transition énergétique. Nous avons des atouts incontestables tirés de décisions stratégiques prises il y a maintenant une dizaine d'années. Nous avons transformé nos outils industriels et nous allons accélérer notre stratégie de zéro émission nette. Nous disposons d'une flotte de véhicules électriques qui fait notre fierté. Nos immeubles sont éco-construits ou éco-rénovés. Et les postières et les postiers sont très impliqués dans la transition énergétique et écologique, dans leur façon de travailler avec l'éco-conduite et les déplacements professionnels, mais aussi dans les offres qu'ils proposent à nos clients. Mais nous sommes rentrés dans une période de forte tension avec la guerre en Ukraine et le réchauffement climatique, dont nous voyons désormais les conséquences chaque jour. Il nous faut donc accélérer dans notre trajectoire de développement verte et durable, telle que nous l'avons souhaité dans notre plan stratégique. Et nous allons d'autre part mettre en œuvre un plan de sobriété énergétique pour viser une réduction d'au moins 10% de nos consommations, comme le gouvernement l'a souhaité. Enfin, nous avons mis en place, une cellule de veille énergie, animée par la direction de la sécurité du groupe, et qui pilote nos plans de continuité d'activité, qui s'inscrit dans le dispositif EcoWatt, lancé par RTE et par l'ADEME. Vous voyez donc que, dans cette période, nous combinons à la fois nos objectifs stratégiques de transformation verte de La Poste et les impératifs liés à la situation que nous connaissons toutes et tous.
Vous avez bien évidemment un rôle très important dans les territoires pour la vie économique et sociale. Que propose votre réseau et vos filiales aux entreprises et aux collectivités ?
Effectivement, compte tenu de son histoire, il est naturel que La Poste participe au plan de sobriété énergétique et, par son image sur les territoires, participe aux côtés des collectivités locales et de tous les acteurs économiques à ces économies d'énergie. Pour ce qui est des solutions que nous proposons à la fois par nos facteurs et l'ensemble de nos filiales, je vais en prendre trois, avec trois marchés différents, trois destinataires de ces solutions différentes. Tout d'abord, Sobre, qui est une offre de management de l'énergie au sein des bâtiments, plutôt orientée au profit du secteur public local et des collectivités locales. Ensuite, nous avons une offre de solutions clé en main, qui s'appelle BestEWatt et qui est plutôt, elle, dirigée vers les TPE-PME. Enfin, pour les particuliers, nous avons une offre de diagnostic énergétique avec EDE qui propose également des certificats d'économie d'énergie.
Adrienne Aurel-Pagès, quelles sont les actions de la Banque Postale pour répondre aux exigences, notamment du plan de sobriété ?
En fait, la Banque Postale dispose depuis 2015 d'un dispositif qui lui a permis d'anticiper les exigences du plan de sobriété. C'est un mécanisme de monétisation de notre empreinte carbone directe, par exemple les transports, les émissions de nos bâtiments ou encore de nos équipements informatiques, auquel nous attribuons un prix du carbone en interne pour avoir un budget qui nous permet de financer à la fois des travaux de rénovation interne, et nous avons économisé jusqu'à 6000 tonnes de CO2 depuis 2015, mais aussi de participer au financement de projets de collectivités locales dans le cadre du programme Climat et Territoire.
Quelques exemples de projets ?
Ce sont par exemple des projets de reforestation, d'agriculture durable, ou encore en 2023, nous allons participer à la transformation et à la renaturation d'un jardin public à Marseille. Mais l'impact carbone d'une banque, c'est avant tout via ses financements, ce qu'on appelle son scope 3. Et là-dessus, nous avons une stratégie très forte, puisque nous avons été une des premières institutions financières à être validées par le Science Based Target, qui valide les trajectoires de décarbonation si elles sont scientifiques et basées sur des scénarios de référence, ce qui entraîne des positions très exigeantes, en particulier le fait que nous avons arrêté de financer le secteur des énergies fossiles pour les acteurs qui n'ont pas un plan de transition crédible aligné avec l'accord de Paris. Notre démarche a été saluée par des collectivités locales qui souhaitent de plus en plus avoir des partenaires financiers qui sont véritablement engagés dans la transition. Nous souhaitons que les collectivités, nos clients, soient des acteurs de la transition et pour cela, nous leur proposons des offres de financement adaptées comme des prêts verts ou même des prêts sociaux qui vont permettre de financer des projets de rénovation dédiés.
Merci à vous.
Merci beaucoup, Paul-Emmanuel.
C'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir suivi. Pour écouter les autres podcasts de Regard Public, rendez-vous sur le site du groupe Caisse des dépôts et sur celui de RMC. À bientôt.